Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ainsi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Quelques pensées sur cette expression « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel, dans la parole de Dieu, est utilisé déjà dans l'Ancien Testament. Il était utilisé dans les sacrifices. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Marc, il est dit « Tout sacrifice sera salé de sel ». Donc, pour rendre quelque chose agréable à Dieu en lui offrant, il fallait que ce soit salé. Alors, il y avait les holocaustes, il y avait les offrandes de gâteaux, il y avait l'encens composé, tous ces éléments qui étaient pour la gloire de Dieu ou qui rappelaient le sacrifice de son Fils devaient être salés. On utilise le sel pour maintenir, pour préserver un aliment de la corruption. Alors, il y a d'autres aspects qui sont liés au sel. On pourrait le lire dans l'Ancien Testament, en dehors des sacrifices. Il y a par exemple en 2 Chroniques, deuxième livre des Chroniques, 2 Chroniques 13, verset 5, « N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. » Et il y a un autre passage dans le deuxième livre des Rois, pour encore un autre aspect. Tout est lié, bien sûr. Deuxième livre des Rois, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 19. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, « Tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. » Et Élisée dit, « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, et y jeta le sel et dit, « Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Cette ville, c'est Jéricho. C'était une ville qui symbolisait au départ ce qui se dresse contre Dieu et qui a dû être abattu. C'est Dieu même qui a fait tomber Jéricho. Et puis voilà, ici, c'est un miracle de la part du prophète Élisée. Et les hommes de la ville viennent et disent « L'emplacement est bon, mais les eaux sont mauvaises. » Et du coup, la terre ne porte pas de fruits. Et puis Élisée va parler ici. « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » Et avec ce vase neuf et ce sel, il va assainir, il va rendre propre cette eau qui coule. Et on peut voir là-dedans à plusieurs niveaux de lecture. On peut bien sûr comprendre ceci en fonction du peuple juif, qui est stérile. Le peuple juif connaît même la parole de Dieu, parole qui est souvent assimilée à de l'eau, mais si la parole de Dieu est utilisée de manière humaine, elle ne porte pas de fruits. Mais un jour viendra où on y introduira Christ. On y introduira ce qui revient à Dieu. Parce qu'en fin de compte, on pourrait dire cela. On voit ça, donc le principe du sel, c'est ce que Dieu demande de notre part dans tout ce qui lui est dû à Dieu. Tout ce qui peut être agréé devant Dieu doit contenir du sel. C'est ce que Dieu a le droit d'exiger pour que ce soit acceptable devant lui. Quelque chose qui n'est pas corrompu, quelque chose qui est préservé du péché, quelque chose qui est préservé du monde. Évidemment, tout cela nous a été présenté en Christ, celui en qui il n'y a pas de péché. Et donc, quand on apporte quelque chose, même de spirituel, pour en revenir au sacrifice, dans l'Ancien Testament, il fallait y ajouter du sel. Pour nous, c'est spirituel, bien sûr. Il faut y apporter quelque chose qui ne vient pas de la chair, quelque chose qui n'est pas corrompu par le péché. Comment est-il possible que nous apportions quelque chose qui n'est pas corrompu par le péché ? Parce que nous avons en nous, on pourrait dire, en reprenant cette expression de Deux Rois, un vase nouveau avec du sel dedans. C'est-à-dire une nouvelle nature. L'ancien vase, le vase qui est mon être, pécheur par nature, il peut faire couler quelque chose, il peut parler, il peut faire des œuvres, alors, mais ce sera stérile pour Dieu. Et c'est la même chose ici dans ce passage de Deux Rois. Tant que les Juifs n'acceptent pas ce qui est réservé à Dieu au travers de Christ, l'endroit est bon, mais il n'y a pas de fruit. Et un jour, Dieu réintroduira parmi son peuple, ici, les Juifs, un nouveau vase. C'est par la repentance et introduire Christ. Et alors, ce qui revient à Dieu peut être offert et va porter du fruit. Maintenant, pour nous, on peut en faire aussi une application dans la chrétienté. Il est dit ici, apporter un nouveau vase. Et nous, qui lisons le Nouveau Testament, qui avons accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous apprenons que celui qui vient à Jésus-Christ et qui croit en lui, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Et cette nouvelle nature, dans l'épître de Jean, il est dit, elle n'est pas corrompue. Elle n'est pas touchée, même pas un petit peu, par le péché pur. C'est ce que Dieu appelle la nouvelle création spirituelle dans celui qui s'est repenti, qui s'est converti. Et alors, c'est seulement au travers de cette nouvelle nature qui est créée à l'image de Christ que nous pouvons apporter quelque chose de bon et d'agréable à Dieu, quelque chose qui n'est pas corrompu, qui n'est pas pollué par le monde ou par la chair. Et on voit que, on l'a lu dans aussi un des caractères du sel, on l'a lu en ce qui concerne David, cette royauté qui a été donnée à David et à ses fils à perpétuité. Donc ce sel, il a une dans la pensée de Dieu, il a un effet perpétuel, à toujours. On l'a lu ici aussi cet effet, c'est-à-dire que le prophète Élisée a mis du sel dans cette source d'eau, et il dit « J'ai assaini les eaux. Il ne proviendra plus d'ici ni mort, ni stérilité. » On va faire une application spirituelle maintenant. Maintenant que le Seigneur m'a fait naître de nouveau, que Dieu m'a fait passer par cette nouvelle naissance, au travers de ce nouvel homme, il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Au travers de ce nouvel homme, il y a vie, il y a fruit pour la gloire de Dieu, toujours. Si dans ma vie, je produis quelque chose de mauvais, ce n'est pas celui-là, c'est l'ancienne nature. Et c'est perpétuel. Et ça, c'est très important, par parenthèse, ça prouve qu'il n'est pas possible de perdre le salut. Parce que si je suis né de nouveau, nulle part dans la parole, nous ne trouvons que le nouvel homme pourrait venir à mourir ou à disparaître. Il est créé à l'image de Christ. Et on voit dans ce caractère du sel qu'il est donné à perpétuité. Et il est dit ici, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Et on a vu dans le passage qui concerne la royauté de David, qu'il lui a donné à perpétuité. Maintenant, si nous revenons à l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 13, le Seigneur dit, à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Il nous le dit à nous aussi aujourd'hui, nous qui lui appartenons, nous qui sommes nés de nouveau. Ce n'est pas par l'ancienne nature que nous sommes le sel de la terre, c'est par la nouvelle nature. « Vous êtes le sel de la terre. » Et donc, je répète, pour Dieu, il faut du sel pour lui être agréable. C'est-à-dire, il faut être préservé de ce qui est corrompu par le péché. Et ce qui est salé est agréable devant Dieu. Donc, ce qui n'a pas de corruption, de péché, c'est agréable devant Dieu, mais c'est inutile pour le monde. Pour le monde, c'est inutile. D'ailleurs, Dieu utilise le sel en jugement. Par exemple, Dieu a détruit Sodome et Gomorre, et puis c'est devenu une terre salée. Il n'y a plus rien qui va pousser là. C'était un lieu où le monde se développait comme il le voulait, et Dieu va juger. Il y aura du sel, plus rien pour le monde. Il n'est pas étonnant non plus, en comprenant ce principe, que la femme de Lot a été transformé en statue de sel. Dieu a pris la peine de faire sortir, de sauver Lot, sa femme et ses filles de Sodome. Il faut maintenant lui apporter à Dieu ce qui lui revient. Eh bien, au lieu de se tourner vers Dieu pour offrir à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire une vie nouvelle, ailleurs, autrement, elle se tourne avec regret vers le monde. Elle n'est pas prête à donner à Dieu ce qui lui revient. Et Dieu utilise son jugement. Elle devient une statue de sel. Ici, dans l'Évangile selon Matthieu, vous êtes le sel de la terre. C'est une affirmation du Seigneur. Nous le sommes. On va dire aujourd'hui, si nous sommes de nouveau, nous sommes le sel de la terre. C'est le travail de Dieu. C'est une vérité fondamentale. Qui d'autre que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus sont rendus capables de s'éloigner du péché? Personne. Nous, oui. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Alors comment? Comment les disciples du Seigneur préservent-ils les droits de Dieu dans ce monde? Comment est-ce que nous faisons pour ne pas être pollués par les pensées du monde? Alors il dit ici, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Je me trouve devant la parole de Dieu. Si je suis né de nouveau et que je n'ai pas la saveur de cette nouvelle nature dans le monde, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si je vis par la chair, alors que je suis né de nouveau, je n'ai pas le goût, la saveur de Dieu vis-à-vis des hommes. J'ai le même goût que les pécheurs si je vis par la chair. À quoi ça sert? Eh bien, le Seigneur dit, il n'est plus bon à rien. Il n'est plus bon à rien. Il n'est pas bon. Si je vis par la chair, alors que je suis né nouveau, alors que je suis capable de me détacher du péché, de vivre séparé du péché, je vis dans le péché en tant que racheté du Seigneur, il est dit, il n'est plus bon à rien. Je ne peux pas servir Dieu par la chair. Il ne trouvera pas son plaisir en moi. Et d'ailleurs, si je vis par la chair et que j'évangile, et que j'annonce l'évangile, ça ne marche pas. Il y a un décalage entre mon comportement et mes paroles. Il n'est plus bon à rien. Il n'est pas bon non plus pour les hommes du monde. Si je leur annonce l'évangile et que je vis comme eux, comment puis-je les amener à la repentance? Je ne suis pas utile non plus pour les hommes dans la chair, en étant né nouveau, si je vis comme eux. Plus bon à rien. Sinon, être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Je pourrais même être méprisé par les incrédules si j'ai la même saveur en sachant que je suis chrétien. Ils savent que je suis chrétien, je vis comme eux, ils vont me mépriser. Non, tu es chrétien, toi. Et quelle est la différence? Je vois bien que tu fais les mêmes péchés que moi. Vous êtes le sel de la terre. Comment est-ce qu'on est le sel de la terre? Il y a aussi un caractère du sel, c'est que le sel il préserve quelque chose de bon de la corruption. Mais si quelque chose est déjà mauvais, on peut mettre du sel, ça ne va pas le rendre bon. Si ce n'est, évidemment, c'est notre principe, si ce n'est quelqu'un qui se convertit à Christ et qui est né nouveau, comme on l'a vu dans Élisée. Mais si quelqu'un est dans le péché, c'est-à-dire, je suis né nouveau, j'ai une nouvelle nature, cette nouvelle nature ne va pas rendre ma vieille nature meilleure. Pas possible. Ma vieille nature, elle est pécheresse, elle ne changera jamais. Et ce n'est pas parce que j'ai du sel en moi, au travers de la nouvelle nature, que ce sel va rendre la vieille nature meilleure. Pas possible. De la même manière, ce n'est pas parce que le Seigneur a des disciples, tels que nous, dans ce monde, qui seraient le sel de la terre et qui auraient la saveur de la sainteté et de la pureté, que le monde va s'améliorer. Et notre combat, nous sommes le sel de la terre, ça ne veut pas dire que par nos actions, par nos paroles, par notre témoignage à la gloire du Seigneur, le monde va s'améliorer. Pas du tout. Certains même chrétiens, pensent que nous sommes sur la terre pour améliorer le monde. Non, ce n'est pas possible. Et donc, nous ne sommes pas le sel de la terre en entrant en campagne contre les péchés du monde, de manière politique ou en organisant des débats, etc., que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre en nous préservant du péché. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais moralement, nous sommes séparés, parce que nous sommes nés de nouveau. Et donc, ce n'est pas en combattant les péchés du monde, les péchés des autres, les péchés des incrédules, que nous allons donner ce caractère de sel de la terre, mais simplement en ne participant pas aux péchés du monde. En ne nous conformant pas au monde, au reste, mes frères, ne vous conformez pas à ce monde, en gardant une distance morale avec les péchés du monde, en ne s'associant pas aux péchés du monde. Soit dit en passant, un chrétien ne doit pas s'investir et se lancer dans les combats du monde, les combats politiques ou tout autre, philosophiques, etc. Ça reviendrait à ce qu'on lit en Proverbe, on peut le lire. Proverbe 26, verset 17. Il saisit un chien par les oreilles, celui qui, en passant, s'emporte pour une dispute qui n'est pas la sienne. C'est très clair. Les gens du monde, dans leur péché, sont en conflit. Ce n'est pas à nous de prendre part dans ces conflits. Nous sommes le sel de la terre. Nous nous éloignons du péché. Et je lirai pour terminer dans Romains 13, verset 12. On va lire à partir du verset 11. Et encore ceci, connaissant le temps, c'est que l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Voilà comment nous sommes le sel de la terre, en ne participant pas au péché de la chair, en nous revêtant de Christ. Et un tout dernier passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, parce que nous avons lu cette expression ici, revêtons les armes de la lumière. De Corinthiens 6, nous lirons à partir du verset 6, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice de la main droite et de la main gauche. Les armes de la justice. Main droite, main gauche, les deux mains, toute notre activité dans des œuvres de justice. Séparés du monde, séparés du péché qui se pratique dans le monde. Vous voyez, nous sommes le sel de la terre parce que nous vivons selon la pensée de Dieu, parce que nous vivons dans la sainteté, parce que nous laissons guider par l'Esprit le nouvel homme qui est en nous, qui va systématiquement s'écarter du péché pour montrer un témoignage à la gloire de Dieu et du Seigneur.
En continuant cette pensée, je voudrais lire deux expressions, d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens, qui étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Et le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche, lequel, y étant arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car il était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Et il s'en alla à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et que ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. Voilà donc une suite logique de cet évangile qui est annoncé et qui se répand. Le diable est venu en ce temps-là, et c'est le verset 19, « Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne. » Celui qui a été ce martyr, qui a été lapidé et qui a vu le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu, eh bien, à cette occasion-là, il y a eu un trouble parmi ces Juifs qui voulaient suivre le Seigneur Jésus et ils se sont dispersés. Et il y a eu, circonstance que le Seigneur permet, qu'il y ait parmi eux des Cypriotes et des Cyrénéens qui parlent aussi aux Grecs. Voilà donc cette frontière qui est franchie, pourrions-nous dire, pour aller vers les nations. Et le résultat, eh bien, il y a eu pendant un an dans cette localité l'évangile et l'enseignement qui a été apporté par Barnabas et par Saul, donc l'apôtre Paul. Et donc, il y a eu ce résultat merveilleux. À Antioche, premièrement, les disciples furent nommés chrétiens. Voilà donc cette Église, cette assemblée qui naît ainsi à travers les nations et qui manifeste justement le nom du Seigneur. Être nommé chrétien, ce n'est pas simplement une étiquette que l'on porte comme cela à travers le monde. Notre frère nous en a parlé. Il y a une réalité, il y a une manifestation. Être chrétien, c'est porter le nom de Christ. C'est bien de là que cela vient. Et donc Christ, pour les Juifs sans doute, c'était le Messie, mais pour nous, c'est le chef de l'Assemblée, c'est Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Être nommé chrétien, eh bien, c'est parce que ceux qui entouraient ces personnes, ceux qui voyaient tout ce rassemblement qui se trouvait là à Antioche, ont pu dire, mais voilà, ces gens-là, ce sont les disciples de Christ. C'est à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. Voilà donc ce sel qui se répand à travers la terre et qui va produire son fruit. Et on sait combien l'Évangile, à travers les Actes des Apôtres, a été répandu à travers tout ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui et puis est passé en Grèce et ainsi a touché beaucoup d'âmes. Et nous savons que certains ont aussi pu évangéliser bien plus loin. Cela ne nous est pas donné textuellement et compréhensible par la parole, mais on sait que, on estime que certains sont venus jusqu'en Espagne, et on sait que de toute façon certains se sont retrouvés à Rome devant l'empereur romain et devant toutes ces personnes qui venaient de partout dans l'Empire romain, et sans doute cela a pu permettre d'évangéliser et aussi donc de voir que ses disciples portaient le nom de chrétiens. Si nous sommes chrétiens sur la terre, nous avons à refléter Christ. Et voilà, comme cela a été expliqué, cela aussi fait partie de cette pensée du sel. Une autre pensée que je voudrais ajouter à ce sujet, c'est dans l'Épître aux Thessaloniciens, alors je regarde si la première ou la deuxième Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2. On va voir aussi cet effet et cette manière dont le sel agit aussi au milieu de ce monde. Alors dans ce chapitre 2, eh bien l'apôtre va enseigner les choses qui vont se passer dans un temps futur. Alors nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12, peut-être, on s'arrêtera peut-être avant. Mais... Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. S'arrête là un moment. Toutes ces choses qui sont révélées là, donc c'est un temps qui court et qui nous transporte au-delà de l'histoire de l'Église sur la terre. L'Église s'en est allée et il y aura donc à un certain moment, eh bien, on en parle nous dans notre étude d'Ézéchiel, il y aura cette reconstruction du temple de Salomon, devenu le temple d'Hérode, et ils vont le reconstruire à Jérusalem. Et l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, eh bien, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu. Donc ce temple qui va être reconstruit à un certain moment, cet antichrist, ce faux prophète, va venir s'asseoir dans le temple en disant « Je suis Dieu ». Alors voilà, il faut que toutes ces choses se passent. Pourquoi cela est expliqué aux Thessaloniciens ? Eh bien, dans ce qui nous est donné dans la première épître, ils avaient cru Dieu, ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu, et ils servaient le Dieu vivant, et ils attendaient le retour du Seigneur Jésus. On sent qu'il y avait une vérité là, une transparence complète de ce qu'il y avait dans leur cœur, dans leur vie de chaque jour. Mais alors, il y avait peut-être cette méconnaissance qu'il y avait le temps qui devait passer. Pour eux, eh bien, le Seigneur allait revenir immédiatement. Et ils n'avaient plus besoin de s'inquiéter. Et l'apôtre vient ici leur expliquer que, voilà, comme si le jour du Seigneur était là. Mais voilà, il fallait, alors à partir du verset 3, il explique que l'apostasie doit arriver, c'est-à-dire cette fausse église. Il faut que tout ça se manifeste. Et jusqu'à cet homme qui va s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous reprenons au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Voilà donc ici, on pourrait dire, La personne n'est pas nommée, ce qui retient, celui qui retient. Bien sûr, nous comprenons que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Et donc nous retrouvons à nouveau cette influence de cette nouvelle nature que nous avons en nous, qui nous permet, à travers ce monde, eh bien, d'apporter, de refléter quelque chose du Seigneur Jésus par l'Esprit Saint. C'est lui qui agit en nous, et c'est lui qui agit à travers ce monde. Il y a donc des choses dans ce monde qui ne se passent pas parce que l'Esprit Saint est en nous. C'est une chose importante à connaître, cela. Pour le moment, celui qui retient, l'Esprit Saint est là comme un frein à l'apostasie, comme un frein au désordre, comme un frein au mal. Et c'est nous, ce sont les enfants de Dieu, c'est l'Assemblée qui est le reflet de cette pensée. Et donc, comme cela a été dit, dans nos actions, dans nos pensées, dans toutes ces choses que nous ne faisons pas, eh bien, nous retenons le monde. Et on peut parfois connaître, entendre des débordements de toutes choses. Aujourd'hui, on sent que les choses progressent, pour un oui ou pour un non. On démolit, on détruit, on brûle, on saccage, on tue. Voilà, les règlements de compte se font maintenant jour après jour. Les médias sont remplis de cette violence et de ce mal. Mais nous sommes encore là. Et l'Esprit agit encore par nous-mêmes. Quelle belle pensée aussi, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que, à travers l'action de l'Esprit en nous, nous limitons cette corruption. Nous arrêtons cette corruption dans le monde. Et par expérience, je pense que ceux qui sont dans des milieux où ils travaillent et où il y a cette manifestation de cette pensée du monde, ceux qui sont opposés à Dieu, n'oublions pas qu'il y a cet homme qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération. Et il y a des âmes dans ce monde qui expriment clairement qu'ils sont contre Dieu et sont contre tout ce qui est religieux. Ça s'entend, ça se dit. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour justement d'abord être affermis, ne pas être balayé, comme il est dit dans une expression, par tout vent de doctrine, parce que ici nous avons lu aussi « Ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre. » Il y avait déjà des choses qui circulaient. De faux docteurs se levaient déjà dans l'Assemblée. Et il y avait des discours, il y avait des pensées qui étaient énoncées, et il y avait des paroles qui étaient données. Eh bien, l'Esprit Saint est là en nous. Combien nous avons à être attentifs. On parle souvent du Seigneur. Bien sûr, l'Esprit n'est qu'un moyen pour nous dire, il n'est pas une personne que l'on adore et que l'on loue, mais il agit. Et nous devons ne pas attrister l'Esprit, ne pas retenir l'Esprit en nous, ne pas le contrister. Et la parole va jusqu'à l'éteindre. Dire à l'Esprit Saint, allez, tais-toi. Nous ne voulons pas entendre cette parole qui vient de Dieu. Eh bien, voilà ici, celui, vous savez, ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. L'Esprit est là, il est dans nos cœurs. Il y a eu cette manifestation de la descente du Saint-Esprit, car le mystère d'iniquité opère déjà. Ben oui, le mystère d'iniquité opère déjà dans ce monde. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Voilà. L'Église va s'en aller. Le témoignage de Jésus-Christ sur la terre va être enlevé de la terre. Il n'y aura donc plus de croyants, de vrais croyants sur la terre. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, va lui-même aussi se retirer de la terre. Jusqu'à celui qui retient, jusqu'à ce qu'il soit loin. Alors, verset 8 sera révélé Ninique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Voilà donc ces différentes étapes qui vont se produire, que l'on connaît déjà sans doute pour ceux qui lisent attentivement la parole. Eh bien, le Seigneur alors va agir. L'Église s'en est allée, le Saint-Esprit s'est retiré de la terre, et il n'y a plus rien qui retient. On peut se dire à ce moment-là que ça va être effroyable sur cette terre, il n'y aura plus de retenue quant à cette violence et quant à toutes les choses que l'on voit déjà aujourd'hui. Quel moment terrible! Mais le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir pour anéantir, pour consumer, et ainsi il y aura alors le Seigneur qui installera bien sûr son royaume. Alors voilà déjà pour nous aussi ces grandes pensées. Vous êtes le sel de la terre. C'est quelque chose d'important. Et en effet, il y aura aussi des bénédictions qui vont se dérouler lorsque le Seigneur établira son royaume. On a parlé d'eau qui était corrompue, et on connaît tous la mer morte. La mer morte en Israël, c'est une mer où il n'y a pas de vie. Alors on se plaît pour les hommes à aller patauger dans cette eau et de pouvoir être en suspension sur l'eau parce qu'il n'est pas possible de rentrer tellement le sel est important. On peut le récolter là, sur le bord de la mer, il est présent. Eh bien, le livre d'Ézéchiel et de Zacharie nous montre qu'il y a ce fleuve qui va sortir de Jérusalem et qui va s'écouler en deux branches, l'une vers la mer d'Occident, c'est-à-dire la mer morte, et les eaux seront rendues saines, et les poissons vont pouvoir se développer à foison pour nourrir ces âmes. Alors voilà cette corruption qui est éliminée parce que le Seigneur Jésus est sur la terre, parce que le Seigneur Jésus est intervenu, parce que tous ces personnages, la bête, le chef de l'Empire romain, l'Antichrist, toutes ces personnes seront anéanties. Sans doute il y aura encore bien d'autres choses qui vont se produire. Gog et Magog, on le sait, il y a cet envahissement, mais le Seigneur va intervenir. Et après, eh bien, toutes choses vont être rendues saines. Alors, il faut lire à travers les prophètes comment les choses vont se dérouler pour assainir le pays d'Israël tout entier. Il y aura une vallée où on va aller déposer tous ces hommes qui seront morts par cette intervention du Seigneur Jésus dans ses armées. Il faut assainir le pays. Et il y aura aussi alors cette chose merveilleuse, les eaux de la mer morte seront rendues agréables, seront une nourriture, seront une bénédiction pour Israël. Alors, voilà ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Et on voit que le Seigneur continue dans cette pensée. Dieu, à travers toutes les dispensations, a cette même pensée. C'est d'apporter justement sa pensée dans les cœurs. Le peuple d'Israël, quand il est né, Dieu voulait un peuple parmi les nations, un peuple qui soit au milieu des nations, au milieu de ce monde, comme étant le peuple de Dieu. Séparé. C'était une nation sainte. Déjà dans le livre de l'Exode, il nous a parlé de cette nation sainte. Eh bien, c'est la pensée de Dieu à travers toute la parole, jusqu'au moment où, bien sûr, toute chose aura sa fin, et même le ciel et la terre passeront avec un bruit sifflant. Mais retenons ce sel de la terre, cette importance pour nous d'être quelque chose sur la terre qui reflète le Seigneur et qui, par même ce que nous sommes, par nos actions, par notre pratique de chaque jour, retient l'iniquité et peut amener ainsi des âmes à comprendre la différence entre le bien et le mal, et de voir à travers le bien la personne du Seigneur Jésus.